Le Monde en Question avec Isabelle Cortian.
Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Niquet. Bonjour Valérie Niquet.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des relations internationales et des questions stratégiques en Asie, chercheuse à la Fondation pour la Recherche Stratégique depuis 2010. Vous êtes l'auteur de deux livres dans la maison d'édition Talendier, un sur le Japon en 100 questions et un sur la Chine en 100 questions. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de la Chine, justement, et nous interroger sur les ambitions de la Chine au niveau régional et mondial. Comment se définit et s'articule sa stratégie de puissance, et peut-être commencer par présenter la Chine en quelques... La Chine aujourd'hui, c'est quoi? Ça représente
quoi? La Chine aujourd'hui, ce qu'on en voit en tout cas de l'extérieur, c'est la deuxième puissance économique mondiale, et c'est ce qui frappe le plus, peut-être même la première selon certains calculs, en tout cas un pays qui a connu un développement absolument extraordinaire depuis la fin des années 70, quand le dirigeant de l'époque, Deng Xiaoping, avait lancé la grande politique de réforme et d'ouverture économique. Mais la Chine aujourd'hui, ça n'est pas uniquement cette puissance économique qui fait rêver tout le monde, c'est aussi une puissance qui a tendance à vouloir s'affirmer avec de plus en plus ce que certains appelleraient une agressivité certaine, notamment dans sa propre région, et qui veut s'imposer sur la scène mondiale comme légitime, le partenaire quasiment dans un nouveau binôme des États-Unis, un peu comme l'avait été l'URSS à l'époque de la guerre froide. La grande puissance face aux États-Unis, celle qui veut réorganiser, peut-être pas le monde, mais en tout cas sa région, autour de ce centre qu'est la Chine, le pays central, pour retrouver ce système de relations hiérarchiques traditionnelles qui existait déjà sous l'Empire, même s'il a été beaucoup fantasmé, qui voyait la Chine au centre, absolument pas contestée et entourée d'États qui reconnaissaient sa prééminence dans sa région. Donc la Chine, donc c'est à la fois quelque chose qui attire, avec des opportunités qui n'ont pas disparu, mais en même temps un pays qui inquiète de plus en plus.
Alors oui, effectivement, il y a l'aspect fascination et il y a l'image aussi assez négative finalement que souvent, la perception à l'extérieur de la Chine est souvent pas une image tout à fait positive.
D'autant plus que depuis le début des années 2010, depuis 2012 exactement, on a eu l'arrivée au pouvoir en Chine d'un nouveau dirigeant, Xi Jinping, qui est toujours au pouvoir aujourd'hui et qui apparemment veut y rester lors du prochain congrès du Parti communiste qui aura lieu à l'automne de cette année. Un nouveau dirigeant qui a observé la situation en Chine, qui a surtout observé la situation en Russie après l'effondrement de l'URSS, qui est à la tête du Parti communiste chinois et d'un régime qui se revendique comme léniniste, et c'est un élément qu'il ne faut pas oublier, même si de l'extérieur on a tendance à moins le voir, et dont le premier objectif est la survie de ce régime politique et de ce parti politique et de son élite. Et évidemment, la réforme économique que la Chine a suivie et l'ouverture sur l'extérieur a permis en quelque sorte à la Chine de sortir d'années de marasme économique. La Chine était exsangue à la fin des années 70, après 30 ans de maoïsme, de révolution culturelle, de grands bonds en avant. Donc c'était une sorte de NEP, vous savez, la nouvelle politique économique que Lénine avait mis en place pour sauver l'URSS, et bien ce que la Chine a connu, c'est une sorte de NEP, de puissance je ne sais combien, qui a permis au régime de survivre, mais en l'ouvrant, qui évidemment a apporté de nouvelles idées, de nouvelles attentes de la part de la population, une nouvelle liberté en quelque sorte aussi tout de même. Et tout ceci menaçait, selon Xi Jinping, d'aboutir à ce qui constitue la menace principale pour la Chine aujourd'hui, c'est le changement de régime ou même l'évolution pacifique du régime qui aboutirait à sa fin, comme ça s'est passé en URSS avec Gorbatchev. Donc, il veut maintenir le Parti communiste au pouvoir et il considère aujourd'hui que l'ouverture est allée trop loin et que donc, il faut au contraire reprendre en main et trouver d'autres motivations de mobilisation de la population, et notamment le nationalisme, la revanche sur le passé, qui existait déjà avant, mais qu'il a vraiment remis en avant très fortement après qu'il ait pris le pouvoir en 2012. La revanche sur le passé est ce qu'il appelle la grande renaissance de la nation chinoise, donc l'affirmation et la reconnaissance de la puissance chinoise sur la scène internationale.
Alors, la grande renaissance de la nation chinoise, cela suppose que le pays qui se définit quand même comme un pays multiethnique et qui est dominé majoritairement en 95% par les Han, n'est-ce pas ? Toutes ces différentes composantes sont unies au sein de la nation chinoise.
Oui, alors ça c'est le principe qui a été mis en œuvre dès 1949 par le Parti communiste quand il s'est étendu. En fait, la Chine aujourd'hui, avec l'arrivée au pouvoir des communistes en 49, a réussi à reprendre le contrôle effectif sur l'ensemble d'un territoire qui était celui qui avait plus ou moins réussi à étendre l'Empire mandchou avant son effondrement en 1911. Donc effectivement, la Chine c'est plus de 95% ce qu'on appelle la nationalité, enfin l'ethnie dominante, ce sont les Han, qui est d'ailleurs c'est le nom d'une des plus grandes dynasties chinoises, la dynastie des Han. Mais il y a le reste, ce sont ce qu'on appelle des minorités nationales. Il y en a en tout, alors j'ai un peu oublié, mais je crois plus de 50 en tout cas en Chine. Et qui sont toutes évidemment situées sur les pourtours, les marges de cet ex-empire chinois, de cette nouvelle République populaire de Chine, que ce soit la Mongolie intérieure au nord, avec l'autre partie qui est indépendante, qui a longtemps été très proche de l'URSS, la Mongolie extérieure. Vous avez toute la zone du Xinjiang, il y a des Ouïghours, mais pas uniquement.
Puisqu'effectivement, de plus en plus, il y a des Han qui s'y sont installés.
Il y a une politique un peu comme au Tibet de prise de contrôle par la population Han de ces régions. Mais aussi, ce que je veux dire, c'est qu'en dehors des Ouïghours, il y a d'autres nationalités moins nombreuses, comme les Kazakhs, par exemple. C'est une zone, ce qu'on appelait avant le Turkestan oriental, qui est culturellement et en termes de religion, la continuité des républiques d'Asie centrale, et même de ce que certains appellent le monde turc au sens large. Et puis vous avez le Tibet, évidemment, qu'il ne faut pas oublier, même si on en parle moins aujourd'hui, où la répression n'a pas du tout cessé. Et puis vous avez toute une série de zones de minorité au sud de la Chine, le long des frontières avec l'Asie du Sud-Est, et des frontières extrêmement poreuses, où la circulation se continue. Et d'ailleurs, on l'a bien vu ces derniers temps avec des reprises d'épidémies de Covid et le variant Omicron, une partie venait justement de ce sud, de ces provinces sud de la Chine où la porosité des frontières existe avec toute une série de trafics, de commerce, mais aussi de trafics qui existent et donc qui favorisent les relations avec la Thaïlande, la Birmanie et tous ces pays donc, qui sont à la frontière sud de la Chine. Et puis évidemment, on peut ajouter Hong Kong, qui est un statut particulier de zone administrative spéciale, qui a vu toutes ses libertés, tout ce qui faisait sa spécificité et qui était en théorie garanti par un accord avec les Britanniques signé dans les années 80, et bien tout ça a été remis en cause, sans parler de Taïwan, qui est indépendante de fait, mais que la Chine continue de revendiquer comme faisant partie intégrale du territoire de la République populaire de Chine.
Alors, précisément, on va essayer de... Donc, Hong Kong, on voit que l'idée, le slogan « un pays et deux systèmes » a été remis en cause avec une reprise en main assez importante et une répression à Hong Kong de toute velléité on va dire, un peu d'autonomie par rapport à la Chine. La tension avec Taïwan, elle se passe comment ? Parce que c'est une chose différente, effectivement, comme vous l'avez souligné. De fait, Taïwan est quasi indépendante depuis 1949. Et c'est aussi une démocratie depuis les années 80.
Voilà. La situation de Hong Kong et de Taïwan sont totalement différentes, comme vous l'avez très bien indiqué. C'est que Hong Kong est sous le contrôle de la Chine, puisque les Britanniques ont rendu, entre guillemets, l'ex-colonie britannique à la Chine en 1997. Donc, il n'y a pas de rupture de territoriale entre Hong Kong et la République populaire de Chine, même s'il y avait un statut spécifique qui était censé garder, conserver à Hong Kong une large part d'autonomie politique, notamment de liberté d'expression, qui aujourd'hui a totalement disparu. Ce fameux concept de un pays, deux systèmes qui avait été lancé par Deng Xiaoping au tout début des années, dans les années 70, en fait, à la fin des années 70, initialement, en réalité, il était destiné à Taïwan. Ensuite, il a été appliqué à Hong Kong. Aujourd'hui, on voit qu'à Hong Kong, il ne fait plus sens du tout, et donc Taïwan se rend bien compte, mais ça n'est pas nouveau, que ces promesses faites par la Chine n'engageaient finalement la Chine que dans la mesure où ça servait ses intérêts, mais que ça n'empêchait pas, ça n'interdisait pas du tout à Pékin de revenir sur ses engagements. Là encore, on retrouve cette cause, ce principe de gouvernement léniniste dont je parlais au début. Il y a des moyens dont on se sert, ça ne signifie pas que l'engagement soit absolument, ne puisse pas être remis en cause. Taïwan, c'est différent. En 1949, Taïwan, c'est la République de Chine, c'est le nom officiel de Taïwan. Donc la République de Chine, qui gouvernait l'ensemble de la Chine jusqu'en 1949, s'est réfugiée, ce qu'il en restait, s'est réfugiée à Taïwan après la prise de pouvoir par les communistes à Pékin. Et là, on a donc eu un État qui, initialement, était le seul qui représentait la Chine, puisque les États-Unis soutenaient Taïwan et qu'à l'ONU, par exemple, c'est la République de Chine qui était représentée. D'autant plus que la République de Chine, qui avait lutté contre le Japon pendant la guerre, faisait partie des grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale et des États fondateurs de l'ONU, membres du permanent du Conseil de sécurité. Donc tout ça a été abandonné en 1971, quand les États-Unis ont choisi finalement de reconnaître Pékin comme représentant à la République de la Chine, en quelque sorte, à l'ONU. Pékin a quitté l'ONU, Taïwan, donc la République de Chine, a quitté l'ONU et petit à petit a perdu tous ses soutiens diplomatiques, tous les pays qui reconnaissaient Taïwan et qui ont choisi de reconnaître plutôt la République populaire de Chine. Avec un point très spécifique à cette question entre la Chine et Taïwan, c'est que contrairement à ce qui s'est passé, par exemple, avec les deux Allemagnes pendant la guerre froide, ou avec les deux Vietnam ou les deux Corées, eh bien, la République populaire de Chine à Pékin refuse une double reconnaissance. Elle n'est pas du tout favorable, a toujours rejeté l'idée même d'une double reconnaissance, ce qui fait que lorsqu'on reconnaît Pékin, eh bien, on est obligé de rompre toute relation diplomatique avec Taïwan, qui aujourd'hui n'est plus reconnue que par, je crois, 14 pays dans le monde, dont le Vatican, qui parfois vacille d'ailleurs sur ce sujet-là. Donc, mais ceci dit, Taïwan n'est pas sous l'autorité de la Chine, et conquérir ou réunifier, comme dit Pékin, Taïwan à la République populaire de Chine serait une opération qui ne serait pas du tout simple, y compris militairement, même si beaucoup aujourd'hui s'inquiètent de la montée en puissance militaire de la Chine qui existe. Ceci dit, d'autant plus
avec intrusion dans l'espace aérien ou dans la...
Oui, alors effectivement, Pékin depuis quelques mois, depuis le retour au pouvoir notamment du parti indépendantiste avec la présidente Tsai Ing-wen à sa tête à Taïwan, un parti qui est indépendantiste mais qui est aussi très prudent et qui n'a jamais souhaité déclarer l'indépendance brutalement, sachant parfaitement que la réaction de la part de Pékin pourrait être très violente et que par ailleurs il n'est pas certain que les États-Unis les soutiennent si véritablement ils déclaraient l'indépendance. Donc simplement ils souhaitent un statu quo et la poursuite de relations apaisées avec la Chine, mais la République populaire de Chine, donc Pékin, a mis un point d'honneur à exiger de cette présidente indépendantiste, qui par ailleurs a une attitude plutôt raisonnable, qu'elle reconnaisse en quelque sorte tous les termes imposés par la Chine, c'est-à-dire que Taïwan fait partie de la Chine et la Chine étant évidemment la République populaire de Chine. Elle refuse de le faire, elle souhaite le statu quo mais ne veut pas se plier aux exigences de Pékin en la matière. Et donc les tensions se sont considérablement accrues de par les initiatives prises par la Chine populaire. Et on a vu que Pékin exerçait des pressions de plus en plus fortes sur les quelques pays qui reconnaissent encore Taïwan pour qu'ils abandonnent Taïwan. Ça a été le cas, la dernière prise, entre guillemets, ça a été le Nicaragua, par exemple. Et puis on a aussi une pression militaire constante, enfin une sorte de ce qu'on appelle des gesticulations militaires qui visent à impressionner Taïwan, à décourager la population, à également épuiser en quelque sorte les forces taïwanaises avec des incursions dans ce qu'on appelle non pas l'espace territorial de Taïwan. Les Chinois restent très prudents tout de même. Ils savent très bien que s'ils vont trop loin, le risque, c'est une intervention des États-Unis aux côtés de Taïwan. Et là, les forces chinoises sont évidemment, ont fait des progrès, mais sont encore très très loin des capacités des États-Unis et de leurs alliés. Et surtout, ils n'ont aucune expérience du feu véritablement depuis 1979. C'est-à-dire que l'Armée populaire de libération ne s'est pas véritablement battue en dehors d'escarmouches à la frontière dans l'Himalaya avec l'Inde depuis 1979, et ça ne s'était pas très bien passé.
Et c'était donc, contre le Vietnam.
C'était contre le Vietnam, oui, voilà. Et donc, en fait, qui à l'époque était proche de l'URSS, en plein conflit sino-soviétique. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la Chine veut en quelque sorte, j'ai traduit également l'art de la guerre de Sun Tzu il y a déjà plusieurs années, l'objectif de la Chine, ce serait que Taïwan tombe comme un fruit mûr, elle a beaucoup espéré ça, notamment en encourageant le développement des relations économiques. Et c'est vrai que Taïwan est très dépendant économiquement de la République populaire de Chine, qui est son premier marché. Il y a énormément d'investisseurs taïwanais, d'investissements taïwanais en Chine. Lorsqu'on parle des investissements étrangers en Chine, il faut bien voir qu'à 90%, ce sont non pas des investissements occidentaux, mais des investissements chinois d'outre-mer, et la très grande majorité vient de Taïwan. Donc il y a une interdépendance économique qui est réelle, et la Chine a essayé de jouer dessus pour obtenir une sorte de reddition de Taïwan, qui finalement accepterait de se rallier en jouant des lobbies également commerciaux pro-chinois qui existent à Taïwan. La seule chose, c'est que la Chine a fait une erreur majeure. Ça aurait pu, dans une certaine mesure, fonctionner, mais a fait une erreur majeure avec cette affaire de Hong Kong qui a brutalement rappelé à Taïwan que les engagements chinois étaient extrêmement fragiles. Donc tout ça a été remis en cause, et donc la Chine aujourd'hui est passée à un stade différent, qui est celui de tenter d'impressionner la population taïwanaise avec des menaces de conflits et ces incursions très régulières, très importantes, quasiment quotidiennes, dans ce qu'on appelle la zone d'identification aérienne de Taïwan, que les pays définissent. C'est une zone très élargie où normalement un avion militaire étranger qui entre dans cette zone, s'il se dirige vers le territoire, tous les pays ont ce type de zone, enfin beaucoup de pays ont ce type de zone, eh bien doit se déclarer pour éviter une action hostile, ou en tout cas, et s'ils ne le font pas, on considère que ça peut être hostile. Et en fait, ce que font les Chinois depuis au moins 2019, avec une accélération depuis 2021, eh bien c'est d'envoyer des appareils ou de faire des exercices à l'angle sud-ouest de cette zone, c'est-à-dire assez loin des côtes taïwanaise, mais avec des incursions très régulières. Donc ça donne l'impression, surtout quand on lit certains certains médias que voilà, la Chine tous les jours envahit l'espace aérien taïwanais, et ça n'est pas le cas, mais ça crée une agitation perpétuelle autour de Taïwan qui évidemment peut renforcer les inquiétudes.
Voilà, stratégie de l'attention. Alors je vous propose, on va continuer sur ce sujet-là, mais je vous propose une première pause musicale et nous allons écouter Li Daiguo, qui est l'une des principales figures du mouvement musical chinois, celui qui en tout cas mêle la musique traditionnelle et expérimentale, folklore et contemporain. Et donc Li Daiguo, c'est, eh bien, on va l'écouter en train de jouer du pipa. À tout de suite après cette première pause musicale. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous parlons de la Chine et nous recevons Valérie Niquet. Valérie Niquet, nous avons parlé de cette stratégie de l'attention et de cette agressivité que l'on perçoit du côté de la Chine vis-à-vis de son, on va dire quoi, son environnement proche, sa zone. Est-ce que la Chine considère qu'il y a un périmètre autour de lui, autour d'elle, qui est de cette république, qui lui revient de droit ou qui doit comprendre que des personnes, que des États qui lui sont plus ou moins soumis ou en bonne relation, en bon terme avec la Chine?
Alors, en fait, oui, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a ce discours sur ce qu'était la Chine auparavant, au centre du monde, en Asie, exerçant son influence sur des États qui reconnaissaient en quelque sorte leur infériorité face à l'Empire de Chine. C'est ce qu'on appelle le fameux concept du Tianxia, sous le ciel, donc tout ce qui est sous le ciel, en fait, des prêter allégeance à l'Empire et à l'Empereur de Chine, plus exactement, puisque la Chine ne s'appelait pas Chine, elle s'appelait Empire Qing ou Empire Ming. Donc la notion même de Chine n'était pas du tout non plus telle qu'elle est aujourd'hui avec la République populaire de Chine. Mais le cœur du problème n'est pas tellement celui-ci. Le cœur du problème est qu'on est avec un système politique qui a besoin d'une légitimation perpétuelle, en partie fondée sur la création de, d'ennemis, de luttes, le discours, la revanche, encore une fois, sur le passé, et sur la possibilité de démontrer à sa propre population que le Parti communiste chinois est tellement puissant qu'il peut imposer la volonté de la Chine sur son périmètre, effectivement, dans son environnement proche et même au-delà. Donc, la motivation principale, ça n'est pas tellement un retour à ce que pouvait être l'Empire de Chine dans une vision, encore une fois, qui est très, qui n'est pas toujours, qui correspond pas exactement à la réalité. Mais c'est surtout la volonté de ce parti communiste de démontrer sa puissance d'abord à sa propre population en montrant qu'il est capable d'imposer la puissance chinoise dans son environnement. Et c'est aussi pour ça que toutes ces thématiques nationalistes sont devenues beaucoup plus prégnante au cours de ces dernières années, et notamment, alors depuis déjà après l'épisode de Tiananmen, ce qui s'est passé à Tiananmen, on a vu remonter le nationalisme comme principal facteur de légitimation du parti avec la croissance économique. Aujourd'hui, on a une insistance encore plus forte sur la dimension nationaliste, parce qu'on a une reprise en main interne, parce que sans doute il y a plus d'insatisfaction, même si on la voit moins, parce que l'économie va moins bien que dans les années 90-2000, où elle connaissait des taux de croissance à deux chiffres. Aujourd'hui, on en est très loin. Donc le nationalisme a de plus en plus tendance à remplacer tout le reste comme facteur de légitimation du régime et du parti. Et le nationalisme, ça veut dire montrer que la Chine peut s'imposer face au Japon. On a toute cette question autour des îlots Senkaku, Diaoyu en chinois. On a le même type de la réunification de la patrie, même si elle ne se fera sans doute pas dans un avenir proche. Et je pense que le rattachement de Taïwan à la Chine n'est pas pour demain, s'il doit avoir lieu un jour, et qu'on ne sait pas du tout. Enfin, sans doute la Chine évoluera d'une manière différente d'ici là, imposer sa volonté à Hong Kong, tenter d'éloigner les États-Unis d'une zone que le Parti communiste considère comme étant de son influence. Donc ça, tout ça, ce sont les ambitions chinoises. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces ambitions ne sont pas couronnées de succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Face à la Chine, et en raison notamment des incursions quotidiennes, là aussi, des bâtiments chinois autour des Senkaku, eh bien, le Japon, qui a pourtant lui aussi de gros intérêts économiques avec la Chine, a tendance à resserrer encore plus l'alliance de défense avec les États-Unis, à développer ses capacités, y compris en matière de défense, qui n'était pas le cas auparavant. Taïwan, évidemment, est de moins en moins prêt à être réunifié de force avec la Chine. L'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est, qui étaient plutôt favorables à Pékin, sont aujourd'hui assez souvent inquiets, en tout cas ceux qui ont les moyens de l'exprimer. C'est le cas des Philippines, du Vietnam, même de Singapour, devant les ambitions chinoises en mer de Chine méridionale. Donc on voit que, si l'Inde, n'en parlons pas, mais on voit que la stratégie chinoise d'affirmation de puissance, finalement, est extrêmement contre-productive et ne se traduit pas du tout, même au contraire, par un renforcement de l'influence de la Chine dans sa région, mais plutôt par une montée en puissance des perceptions très négatives de la Chine, y compris en Asie.
Oui, c'est-à-dire, on peut dire qu'elle a assez peu d'alliés, de vrais alliés.
La Chine, de toute manière, par principe, n'a pas vraiment d'alliés. Elle en a un, officiellement, avec un vrai traité d'alliance, c'est la Corée du Nord. Elle a un État dans son environnement proche, qui est très proche, c'est le Pakistan, mais pour des raisons qui sont liées au conflit entre l'Inde et le Pakistan, et par ailleurs, avec des relations qui peuvent être compliquées, y compris au Pakistan. Et au-delà, la Chine a construit, on a beaucoup parlé des routes de la soie.
Oui, tout à fait.
De construire
qui était un élément
réseau,
de sa puissance, de sa stratégie
voilà.
de puissance, oui.
Alors, c'est de sa stratégie de puissance, effectivement, pour développer, notamment en aidant à la construction d'infrastructures. C'est vrai que dans ce domaine, sur certains continents, la Chine a pu apparaître comme une solution pour notamment, je pense à l'Afrique, où effectivement, quels que soient les défauts de cette aide chinoise, les Chinois ont apporté une capacité de construction d'infrastructures que l'Occident avait tout de même laissé tomber pendant des années. Mais enfin, on voit que la Chine a essayé de développer son influence, de gagner des soutiens en partie avec succès, notamment auprès du groupe africain au sein de l'ONU, avec ses stratégies d'aide et de développement. Elle a essayé de le faire également en Europe, où on voyait ce fameux groupe des 17+1, des 17 pays plus, donc des pays d'Europe centrale, Baltique, Europe du Sud, méridionale aussi, qui accueillaient positivement les investissements chinois. Mais on voit que même dans la matière, eh bien, on assiste aussi à plutôt un recul récemment, alors notamment autour avec la question du Covid, mais de cette influence chinoise. Les pays baltes commencent à reconsidérer leur participation avec le cas de la Lituanie, par exemple. L'Italie, qui avait été un des premiers grands pays européens à signer un mémorandum avec la Chine sur la question des routes de la soie, revient. La Grèce s'inquiète. Dans les pays d'Afrique, évidemment, on attend, les Chinois peuvent être très généreux, il n'y a pas de contrôle, et puis ne posent pas trop de questions sur la question de la corruption ou de la nature des systèmes politiques ou de la garantie de l'utilité des investissements. En revanche, il y a la question de la dette dont on parle beaucoup, c'est-à-dire que ces pays s'aperçoivent aujourd'hui qu'ils sont dans une situation d'endettement colossal à l'égard de la Chine et que la Chine n'est pas si généreuse dans la mesure où elle exige évidemment que cette dette soit remboursée et quand elle ne l'est pas, eh bien elle s'empare de ressources locales. Un des exemples les plus fameux ces derniers temps, ça a été la prise de contrôle d'un port au Sri Lanka que la Chine avait contribué à construire et dont elle a pris le contrôle pour, je crois, plusieurs dizaines d'années pour justement se rembourser alors que le pays n'avait plus les moyens de le faire. Donc le rôle de la Chine, évidemment, est important. Elle a des moyens de pression. On a parlé aussi beaucoup des routes de la soie, de la santé avec la diplomatie des vaccins. Là aussi, on s'est aperçu maintenant, notamment au Chili où les vaccins chinois ont été très présents, eh bien, que les vaccins chinois ne sont peut-être pas aussi efficaces que d'autres vaccins et que ces pays finalement se retournent vers d'autres partenaires parce qu'il y a une certaine déception devant ce que la Chine peut offrir.
C'est ça, déception par exemple, où on voulait pas, certains ont considéré qu'ils étaient traités comme des poubelles par la Chine, c'est ça, à propos des vaccins qu'ils essayaient de leur redonner.
Alors ça c'est ce qu'a déclaré, je crois, même le Cambodge, qui pourtant est très très proche de la Chine, mais sans être traités comme des poubelles par la Chine, ce qui est certain, c'est qu'ils se sont rendus compte que l'aide chinoise, qui était très mise en avant et qui servait essentiellement à démontrer la puissance de la Chine sur la scène internationale, eh bien cette aide était
ambivalente, enfin en tout cas pas si généreuse que ça.
Et surtout, qu'elle pouvait coûter très cher aussi.
C'est ça, elle pouvait coûter très cher aux indépendances nationales, hein, et puis aussi, ce n'était pas nécessairement de la bonne qualité.
Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on entend beaucoup également sur le continent africain, où les produits chinois sont de plus en plus répandus, ont tendance à parfois évincer les commerces locaux et ne sont pas toujours de bonne qualité, mais il faut tout de même se prendre avec... il faut que l'Occident reconnaisse aussi que si la Chine a pu être si active dans ces pays et si accueillie, c'est parce qu'il y avait un vide qui s'est créé notamment après la guerre froide et que pour beaucoup, eh bien, la Chine est apparue comme un recours et est souvent le seul recours possible en matière, notamment encore une fois en ce qui concerne le développement des infrastructures.
Alors, si on parlait de la pandémie et de la crise de Covid avec cette, qu'est-ce que ça a révélé à l'intérieur du pays et à l'extérieur, cette crise sanitaire?
La crise sanitaire, d'abord, il y a un point qu'il faut quand même rappeler constamment, c'est qu'elle vient de Chine. Et ça n'est pas par hasard. C'est-à-dire que certains diront la Chine, mais ça pourrait venir d'ailleurs. Non, ça n'est pas la première crise sanitaire qui vient de Chine. On se souvient de l'épidémie de SARS en 2003, je crois, la première. Donc cette crise vient de Chine, elle vient de Wuhan. Et il y a tout un... un ensemble d'éléments qui sont très caractéristiques du système politique chinois et qui expliquent pourquoi cette crise a pris une telle ampleur. D'abord, il y a l'absence de transparence. Alors, je ne parle pas forcément de la question de savoir si la crise a émergé dans un laboratoire ou sur un marché. L'idée, c'est que les règles ne sont pas appliquées, il y a une grande corruption, et que ce soit dans un marché mal tenu ou dans un laboratoire où il y aurait pu avoir des recherches effectuées et ensuite un mauvais contrôle de la sécurité, sans parler particulièrement d'essayer de produire un virus spécifique, mais tout simplement en travaillant sur des virus, eh bien, le réflexe premier en Chine dans ce type de régime, c'est de cacher les choses, de les étouffer, de tout faire pour que ça ne... Que ça ne se sache pas. Et évidemment, ça a été une des premières causes qui a facilité le fait que le virus se répande, c'est que tout simplement, au début, on ne voulait pas dire ce que c'était véritablement. D'ailleurs, Taïwan, encore une fois, qui a des sources d'informations, évidemment, il y a plus d'un million, entre 1 million et 3 millions de Taïwanais qui seraient installés régulièrement en Chine, qui ont très vite compris qu'il se passait quelque chose, Wuhan étant un des centres aussi de production avec des liens vers l'extérieur, très vite prévenu l'OMS qu'il y avait évidemment des contaminations de personne à personne, mais cet avis n'a pas été écouté initialement par l'OMS et la Chine a tout fait, quasiment jusqu'à la fin du mois de janvier, pour continuer à déclarer que non, on n'était pas certain, qu'il n'était pas sûr, que ce n'était pas grave, que c'était sous contrôle, que les contaminations de personne à personne n'étaient pas assurées. Et évidemment, tout ça a permis, dans cette période-là, que le virus se répande, que des gens quittent Wuhan, que la Chine critique les pays qui fermaient leurs frontières, alors qu'elle-même mettait un contrôle très sévère sur Wuhan, parce que pour l'image de la Chine, évidemment, c'était très négatif. Et c'est comme ça que tout ceci... Il ne faut pas oublier que pendant toute la période initiale, c'est-à-dire le nouvel an chinois et le nouvel an donc, le nouvel an dans les pays occidentaux de tradition chrétienne, et Noël, ce que je veux dire, eh bien, ces périodes de fêtes ont vu de grandes circulations de population entre la Chine, y compris Wuhan, et le reste du monde. Je rappelle que pour l'Europe, l'Italie a été le nord de l'Italie a été particulièrement touché très tôt, et ensuite ça s'est répandu ailleurs, en France notamment. Mais le nord de l'Italie, c'est aussi le cœur de la production textile où des liens très étroits existent avec des entreprises chinoises qui se sont délocalisées en Italie pour avoir accès notamment plus facilement au marché européen et que cette période-là a vu énormément de circulation de population entre Wuhan, qui est un des centres de production, Wenzhou, et le nord de l'Italie. Donc la Chine, le système même fait que tout ça s'est répandu, et puis ensuite s'est ajouté là-dessus tout le refus total d'une inspection, ou en tout cas de laisser véritablement librement des chercheurs étrangers réfléchir et comprendre ce qui avait pu se passer. L'OMS ayant des missions d'inspection, mais pas du tout suffisante. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, finalement, on ne sait pas grand-chose de l'origine, on ne sait rien finalement de l'origine véritablement de ce virus, et que peut-être si on le savait, ça expliquerait, je ne suis pas du tout spécialiste, mais certains experts se demandent si justement comprendre d'où il vient, est-ce qu'éventuellement c'est le résultat d'un travail de scientifique sur ce virus, mais qui aurait un peu dérapé, qui expliquerait ces mutations multiples, mais ces comportements dont on dit beaucoup qu'il est curieux pour un virus, même pour un coronavirus. On sait que les virus mutent, mais voilà. Donc ça, on n'a pas les réponses et la Chine ne les donnera pas, parce qu'elle ne veut pas être considérée comme responsable. Donc le régime ne peut pas s'ouvrir, ne peut pas donner des réponses. Et puis alors l'autre élément qui concerne directement la Chine, c'est que le choix de la Chine a été ce qu'on dit le zéro Covid. Et le zéro Covid, on en voit les limites aujourd'hui, avec notamment ce fameux variant Omicron très contagieux, et un pays qui, n'a pas été en contact tellement effectivement, parce que d'une certaine manière, le zéro Covid marche. Dans un pays où on peut boucler et fermer très rapidement des dizaines de millions de personnes, des programmes de tests et de dépistage gigantesques. Enfin, c'est tout le système qui se met en marche pour appliquer ça. La crainte très forte des autorités locales de voir émerger un seul cas dans leur village ou dans leur ville qui fait qu'ils en rajoutent encore dans la volonté de contrôle. Malgré ça, avec Omicron, ça circule et ça n'est pas si facile. Et surtout, ça pèse évidemment sur l'économie chinoise, parce que l'économie chinoise tournée vers l'exportation, eh bien, lorsqu'on bloque des transports, lorsqu'on bloque des îles entières, lorsque la méfiance à l'égard du Covid ne diminue pas, et elle diminue d'autant moins que les vaccins chinois étant peu efficaces, évidemment, le pouvoir sait que s'il relâche, les conséquences peuvent être graves, et le système de santé est aussi très, très limité. Ne serait-ce que ces centaines de milliers de migrants de l'intérieur qui finalement s'embauchent de province en province, là où ils trouvent du travail, le Covid nuit à leur déplacement, pèse sur le revenu, et tout ça sans doute a des conséquences en termes de soutien au régime à l'intérieur de la Chine elle-même, mais on n'en a pas une vision très claire à cause du contrôle très, très fort de l'opinion publique qui s'est mis en place.
Oui. Alors, avec effectivement aussi un impact sur l'économie et le taux de croissance de la Chine qui risque de ne pas être dans les prochaines années ce qu'il a été jusqu'à maintenant.
Le taux de croissance de la Chine avait déjà commencé de baisser avant le Covid. La Chine ne connaissait plus ses taux à deux chiffres déjà avant le Covid. Parce qu'on arrive à la fin d'un système aussi, parce que il faudrait effectivement que la Chine arrive à amorcer un modèle de croissance plus vertueux, entre guillemets, moins fondé sur la production, l'absence de droits sociaux et l'exportation qui reste, l'exportation et la construction, on a vu avec Evergrande les problèmes que ça posait, mais les deux mamelles de la croissance chinoise, c'est les exportations et la construction. Tout ceci est difficile à remettre, à réformer l'économie chinoise pour encore une fois la rendre moins dépendante en termes énergétiques par exemple, produisant moins de pollution, plus respectueuse de l'environnement, des droits sociaux, etc. C'est quelque chose qui prend du temps, de long terme, qui imposerait sans doute de toucher à des fondamentaux du régime, comme par exemple ce fameux passeport intérieur qui est toujours là, dont on parle régulièrement de sa réforme, mais elle n'a toujours pas eu lieu. Mieux redistribuer les richesses, non plus uniquement pour les grandes entreprises d'État, mais plus vers la population, la classe moyenne, les petites et moyennes entreprises, tout ça peut se faire, mais aboutirait sans doute à un moindre contrôle du Parti communiste sur la société, et donc ça n'est pas la voie que choisit la Chine aujourd'hui. Donc déjà, la croissance était plutôt en ralentissement. Évidemment, le Covid, alors il y a eu un rebond l'année dernière, fondé notamment, encore une fois, sur les exportations, et notamment les exportations liées au Covid, c'est-à-dire les produits médicaux, pas uniquement les masques, mais tout ce qui pouvait être matériel médical, plus le matériel électronique largement produit en Chine, les gens achetant des ordinateurs et ce genre de choses en étant confinés. Aujourd'hui, effectivement, la croissance ralentit. Et ça, c'est un problème, évidemment, pour Xi Jinping, dans la mesure où ce que regardent surtout les Chinois, c'est si la croissance est là, s'ils savent que leurs enfants auront une situation meilleure que la leur, s'ils peuvent avoir une vie relativement confortable et pas trop dure, les choses peuvent tenir. Si, en revanche, il y a des vrais problèmes économiques, on l'a bien vu, encore une fois, avec pas vraiment la faillite, mais en tout cas les problèmes liés à Evergrande, ce grand constructeur, c'est que la colère peut surgir très rapidement aussi quand les intérêts des gens sont directement touchés.
Valérie Niquet, je vous propose une seconde pause musicale. Nous allons toujours poursuivre la découverte de ce musicien, compositeur, interprète Li Daiguo, en live cette fois à la Plantation à Beijing. C'est un musicien donc qui est né aux États-Unis, qui est revenu aux alentours des années 2000 vivre à Chengdu pour s'imprégner des harmonies des instruments traditionnels, et il les introduit dans ses compositions. Et nous allons l'écouter donc en live tout de suite puisqu'il improvise. Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Valérie Niquet et nous parlons de la Chine avec elle. Alors Valérie Niquet, le Parti communiste a fêté en 2021 son 100e anniversaire. La Chine fête actuellement le nouvel an chinois. Ensuite, les Jeux Olympiques s'ouvrent, les Jeux Olympiques d'hiver s'ouvrent à Pékin. Qu'est-ce que le régime attend de tout cela?
Ben, comme toujours, mettre en avant sa gloire et ses succès, encore une fois, d'abord auprès de sa propre population. Le nouvel an chinois est une date extrêmement importante, d'autant plus que, encore une fois, pour ces travailleurs migrants dont je parlais tout à l'heure, c'est souvent la seule période pendant laquelle ils peuvent, pendant quelques jours, retourner dans leur province d'origine pour voir souvent leurs enfants qui sont restés sur place, puisqu'ils n'ont pas de statut officiel, donc c'est très compliqué.
Oui. Revenons sur le passeport intérieur, justement. Donc effectivement, il y a la différence dans les populations qui sont véritablement des populations dites citadines, qui, elles, bénéficient d'un certain nombre de droits et de protections sociales. Et puis ceux qui ont quitté des provinces plus éloignées, qui sont, ou dans le cadre d'un exode rural, tout simplement, ou venus chercher du travail en ville, qui n'ont pas le même statut que les populations nées vraiment dans les villes.
Voilà, elles n'ont pas ce statut-là. C'est un système qui existait aussi en URSS, hein, donc c'est-à-dire c'est un passeport qui est attribué en fonction du lieu de naissance et qu'on ne peut pas. Alors qu'on quitte évidemment de fait, mais que en théorie on n'a pas le droit de quitter, ce qui fait que le système social existe, mais pour en bénéficier en quelque sorte, il faut rester dans son lieu d'origine et notamment pour les enfants, même s'il existe des écoles privées pour les migrants en ville, en réalité par exemple ils ne peuvent pas passer l'examen annuel qui permet d'accéder à l'université. Beaucoup d'entre eux ont du mal à atteindre ce niveau-là, mais en plus, s'ils veulent le passer, il faut qu'ils retournent dans leur province d'origine et montrer qu'ils ont été scolarisés dans leur province d'origine pour pouvoir s'y inscrire. Donc on voit qu'il y a toute une série de choses qui profondément pèsent sur la capacité de construire sa vie et surtout en période de ralentissement économique encore une fois. Donc en fait, le nouvel an chinois, donc c'est l'occasion de retrouver sa famille, d'apporter des cadeaux et de montrer en quelque sorte, comme beaucoup de migrants, les fruits de la réussite. L'an dernier, évidemment, ça n'a pas eu lieu, tout était bloqué à cause des contraintes liées au Covid. Aujourd'hui, il semblerait que le pouvoir, en dépit d'Omicron, ait compris que interdire à nouveau les déplacements serait délicat et donc il y a plus de, manifestement le pouvoir en Chine n'a pas souhaité interdire ce déplacement, même s'il y a encore beaucoup de contrôles, notamment les vaccins, les tests, etc. Donc le nouvel an chinois, c'est important. Et ce qui se passe là-dessus s'ajoutent évidemment les Jeux Olympiques qui commencent le 4 février et des Jeux Olympiques qui, dans l'esprit de la Chine, devaient être aussi glorieux que les Jeux Olympiques de 2008 qui avaient eu lieu, les Jeux de Pékin en 2008, mais qui, et surtout en dépit du Covid, la Chine considérait que finalement, contrairement à Tokyo, le grand rival, eh bien, ils arriveraient à organiser les Jeux Olympiques triomphants de l'après-Covid, et on voit que ça n'est pas le cas. Donc, comme à Tokyo, il n'y aura pas de spectateurs ou quelques spectateurs soigneusement sélectionnés. Il y a des mesures de contrôle absolument orwelliennes mises en place pour éviter que le moindre virus ne pénètre sur le territoire chinois en raison des Jeux. C'est des Jeux aussi qui posent des questions mais c'est autant lié au choix du CIO qu'à la Chine. On savait comment le système fonctionne. On sait qu'il n'y a pas de neige en Chine, dans le nord de la Chine. Il fait très froid, mais c'est très sec. C'est un climat continental, et donc c'est pas à cause du réchauffement climatique, c'est tout simplement parce que eh bien il neige peu dans un climat extrêmement froid. À Pékin en hiver, les douves autour du palais d'été peuvent être gelées, on peut patiner dans les étangs du palais d'été ou de la cité interdite. En revanche, il y a assez peu de neige. Donc depuis des mois, la Chine fabrique de la neige artificielle avec des canons à neige, et on voit en plus esthétiquement, même si on ne s'intéresse pas à d'autres choses, eh bien c'est très laid. C'est-à-dire qu'on a ces montagnes pelées avec quelques lambeaux blancs de neige qui sont les pistes dont on se demande d'ailleurs quelle est leur qualité, avec de la neige exclusivement artificielle. Et puis ces Jeux seront finalement assez peu une occasion de fête, parce que peu de pays boycottent véritablement la Chine, mais peu de pays aussi envoient des personnalités de très haut niveau, à part Vladimir Poutine, qui se rendra à Pékin parce qu'il a lui aussi besoin de s'afficher auprès de son ami chinois, même s'il est... On peut se poser des questions sur la nature réelle des liens entre la Chine. C'est plus des liens d'intérêt actuellement, mais finalement, peu de grandes personnalités. Alors, les sportifs seront là, bien sûr, mais ces Jeux ne s'annoncent pas sous un jour très, très enthousiasmant, y compris d'ailleurs pour la population chinoise qui voit bien que la crise n'est pas terminée.
Oui, alors... On vient de parler de Vladimir Poutine qui va se rendre aux Jeux Olympiques, alors qu'effectivement beaucoup de chefs d'État ont au cours des derniers mois dit au fur et à mesure qu'il n'irait pas à la cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux Olympiques, il ne s'y rendrait pas. Est-ce que il n'y a pas une drôle de concurrence entre la Chine et la Russie par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la Chine souhaiterait être reconnue comme le partenaire, la superpuissance ou une superpuissance mais égale ou qui vise à dépasser les États-Unis, et en même temps on voit bien que la Russie actuellement essaye de se remettre, enfin en essayant d'imposer un dialogue direct avec les États-Unis, elle veut aussi montrer qu'elle est là. Est-ce que c'est la Russie et la Chine se gênent un petit peu ou pas, ou est-ce qu'elles sont
Elles poursuivent chacune leurs objectifs stratégiques. Hein. Donc, pour la Chine, de fait, ils sont obligés de tenir compte des États-Unis dans la mesure où en Asie, notamment autour de cette fameuse question de Taïwan dont on a parlé tout à l'heure, les États-Unis sont un des facteurs essentiels du calcul stratégique que peut mener la Chine. Par ailleurs, évidemment, la Chine aurait intérêt à ce que les relations avec les États-Unis aillent mieux, ne serait-ce que d'un point de vue économique, puisque les sanctions qui avaient été imposées par Donald Trump n'ont pas vraiment été levées par Joe Biden, et que ça nuit aux intérêts chinois. Et puis, en termes de prestige, c'est sûr que pour Pékin, être reconnu comme la deuxième grande puissance avec les États-Unis, eh bien, remplacer en quelque sorte l'ex-URSS, eh bien, c'est quelque chose de très, entre guillemets, prestigieux d'être habillé de cette manière-là. Un défi, mais alors on parle beaucoup des tensions entre les États-Unis et la Chine, de la rivalité de puissance. Je ne sais pas si on peut parler de rivalité de puissance véritablement. Il est certain que les États-Unis n'ont sans doute pas envie de voir une Chine qui émergerait et qui s'imposerait à la première place devant la puissance américaine, mais on voit bien que la puissance chinoise n'a rien à voir avec la puissance américaine. Elle est beaucoup plus localisée, entre guillemets, et encore, comme on l'indiquait tout à l'heure, son influence, même en Asie, a tendance à être parfois remise en question. Militairement, elle n'est pas du tout au même niveau que les États-Unis, même si aux États-Unis, beaucoup aiment bien crier au loup face à la montée en puissance de la Chine, notamment en Asie, pour justement stimuler un peu les budgets et montrer que la Chine représente une vraie menace, qui est vrai d'ailleurs, si on ne fait rien, la Chine est une menace, c'est certain. Mais on n'est pas du tout dans le même rapport de puissance que même pouvait être l'URSS face aux États-Unis, en dépit de ses grandes faiblesses économiques au point de vue militaire, et notamment nucléaire, des capacités nucléaires. L'URSS était beaucoup plus dangereuse, entre guillemets, que ne l'est la Chine aujourd'hui. La Russie, c'est compliqué parce qu'à la fois ils sont très en retrait économiquement, l'économie russe s'est complètement effondrée en raison des priorités suivies aussi par Vladimir Poutine. Il y a cette volonté en Russie de retrouver en quelque sorte sa place en Europe, en tout cas de voir reconnus ses intérêts stratégiques aussi, et de traiter directement avec Washington. La difficulté pour les États-Unis, qui essayaient de se désengager de l'Europe pour mieux se focaliser sur l'Asie, c'est qu'on voit bien que c'est très difficile et que beaucoup de pays européens n'ont pas du tout envie de voir émerger une vraie défense européenne, qui effectivement est très difficile à mettre en place, se satisfont de la protection des États-Unis, ne veulent surtout pas voir les États-Unis s'écarter de l'Europe pour se consacrer uniquement à la Chine. Donc tout ça pose un certain nombre de problèmes de positionnement stratégique, et également le lien entre la Russie et la Chine. Certains y voient une véritable alliance, et c'est vrai que les deux ont intérêt à mettre en scène un rapprochement très étroit. Ça explique aussi pourquoi Poutine se rend à Pékin avec des manœuvres communes, mais on voit bien aussi que la méfiance n'a pas totalement disparu. Lorsque la Russie est intervenue intervenu directement et très rapidement au Kazakhstan il y a quelques jours. En Chine, certains se sont un peu inquiétés et agacés de voir que finalement, quand il se passait quelque chose de sérieux, c'est pas du tout vers la Chine qu'on se tourne, mais c'est vers l'ancienne puissance tutélaire russe. Quel que soit d'ailleurs les justificatifs ou la de pourquoi est-ce qu'on fait appel aux Russes et la répression des manifestations. Mais ce que je veux dire, c'est que la Chine a constaté que bon, c'était une grande puissance, mais c'est pas vraiment vers elle que le Kazakhstan se tourne quand il a besoin de remettre de l'ordre sur son propre territoire, quels que soient les liens économiques très étroits que la Chine a pu construire dans la région.
Alors, la Chine n'est pas à l'heure actuelle en capacité de dépasser les États-Unis, en particulier parce que, en tant que puissance militaire, en tant que puissance navale, elle n'a pas, ou même en tant que puissance nucléaire, elle n'a pas les moyens des États-Unis. Mais en quoi elle est une menace ?
Ou elle serait elle est une menace parce que le système politique est un système politique inquiet, contrairement à ce qu'on peut dire, qui s'inquiète pour son avenir, qui a en permanence besoin de justifier son existence en quelque sorte, et que on n'est pas à l'abri de la tentation aventuriste qui pourrait d'autant plus venir si la Chine se persuadait en écoutant ce que disent les autres que ça y est, elle a atteint un tel niveau de puissance, comme c'est parfois ce qu'on lit, que
elle a dépassé.
Il y a un côté comme ça, il faut être assez prudent quand on vante la puissance chinoise, même pour en faire un épouvantail, parce qu'il pourrait y croire. Et que ça pourrait déboucher donc sur des crises majeures. Le régime chinois est un régime extrêmement inquiet.
Pour son avenir.
Pour son avenir, c'est un des derniers régimes de ce type au monde, parce que même si on fait beaucoup de comparaisons entre la Russie et la Chine, ça n'est pas la même chose. On oublie ce qu'était l'URSS, on oublie ce qu'était le contrôle permanent, on oublie la Russie d'aujourd'hui n'est pas la même chose que ce qu'est la Chine. Le contrôle y est très sévère, mais beaucoup moins totalitaire en quelque sorte que ça n'est en Chine. Donc la Chine est un régime obsolète en réalité, et dont les fondements sont ancrés dans une sorte de contemplation permanente du passé, que ce soit pour essayer de tirer une sorte de revanche sur le passé, sur cette fameuse humiliation que la Chine met souvent en avant, voilà. Mais aussi, les critères sont ceux du passé, assez peu agiles, assez peu capables d'innover, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, dans la mesure où on contrôle beaucoup la pensée, les recherches.
Ce qui limite des start-up ou des initiatives privées.
Voilà, et y compris aussi dans l'organisation du crédit et autres, mais pas uniquement. On voit par exemple que sur la question des semi-conducteurs, où la Chine depuis des dizaines d'années essaye de rattraper son retard, elle en est parfaitement consciente, en achetant notamment, en payant grassement des ingénieurs pour tenter de les séduire, eh bien n'arrive pas à franchir ce pas, cette marche de l'innovation de pointe véritablement, qui lui permettrait de s'autonomiser, parce que la Chine aujourd'hui est également très dépendante, extrêmement dépendante du monde extérieur, des marchés extérieurs, y compris du marché américain, du marché européen, du marché japonais ou autre. Elle est dépendante des investissements étrangers encore beaucoup, même si elle-même a une capacité d'investissement beaucoup plus forte. Elle est dépendante de la recherche extérieure, des innovations technologiques. Donc on voit que la Chine a des atouts considérables, mais que son attachement à un système politique qui est totalement dépassé, l'empêche en quelque sorte de véritablement avancer vers un développement qui, encore une fois, serait plus durable et surtout lui assurerait une place plus reconnue sur la scène internationale.
Eh bien, je vous remercie Valérie Niquet de votre participation à cette émission. Nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine émission. Merci en régie à Stéphane et nous nous quittons avec encore une composition de Hidalgo, Be Nice. À